Bonjour Charles Decamp.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est votre journal des médias, le sommaire du jour.
Une loi sur la pub qui fait grincer des dents, le palmarès des Emmy Awards, un nouveau cas de Covid secoue la télé et le sursis de TikTok.
Mais on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end. Qu'est-ce que les Français d'abord ont regardé samedi soir à la télé ?
Schéma assez classique pour un samedi. France 3 était largement leader sur l'ensemble du public avec sa fiction policière et TF1 était largement leader sur sa cible prioritaire, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, avec The Voice Kids. Dans le détail sur France 3, Meurtre en pays Qatar a signé un véritable carton avec 5,2 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 25,4% sur l'ensemble du public. TF1 est loin derrière avec la suite de The Voice Kids en légère baisse sur une semaine. 3,4 millions de personnes au compteur pour 19,1% de part d'audience, mais 28% sur les femmes de moins de 50 ans. C'est France 2 qui a fermé la marche avec le dernier numéro de la saison de Fort Boyard et pour la troisième semaine consécutive, le jeu a enregistré son pire score de la saison à 1,9 million de téléspectateurs et 10% du public. Après son joli carton estival, le jeu n'est décidément plus fédérateur une fois les vacances terminées.
Et dimanche,
c'est TF1 qui a pris la première position avec la première diffusion en clair de Black Panther. Quelques jours après le décès de la star du film, Chadwick Boseman, ils étaient 4,2 millions hier devant TF1, soit 21,2% du public selon Médiamétrie. La Une est aussi largement leader sur les femmes de moins de 50 ans à 34% de part d'audience. C'est M6 qui prend la deuxième position avec un nouveau numéro de Capital. Le magazine de Julien Courbet qui était consacré hier à l'immobilier post-confinement a été suivi par 2,7 millions de téléspectateurs pour 12,5% de part d'audience. Et c'est France 3 qui prend la troisième position avec la suite des enquêtes de Murdoch. La série canadienne pointe à 2,6 millions de téléspectateurs pour 11,6% de part d'audience.
1-6-3, pas de France 2 sur le podium.
Non, France 2 est cinquième derrière Arte qui a passé la barre des 2 millions avec L'Ivresse du pouvoir. C'est un film français de 2006 avec Isabelle Huppert pour 9,4% de part d'audience. Et France 2 est à seulement 1,8 million de téléspectateurs avec Blade Runner 2049.
Culture Média.
2049, c'est dans le titre, hein, c'est pas
oui,
l'audience.
Oui.
On commence ce journal
non,
des médias de avec un projet de loi encadrant la pub à la télévision. Projet qui inquiète annonceurs et médias.
Hier, le JDD a révélé que le ministère de la Transition écologique planchait sur un texte dont on va beaucoup entendre parler. Il s'appuie sur plusieurs recommandations de la Convention citoyenne pour le climat qui avait été lancée, vous vous en souvenez, fin 2019 et dont le rapport a été rendu en juillet dernier. Objectif, encadrer, voire interdire les publicités télé pour des produits jugés néfastes pour la santé ou l'environnement.
Dit comme ça, c'est assez vaste.
Oui, et c'est précisément ce qui inquiète aussi bien les annonceurs que les médias. Dans le détail, cette interdiction pourrait toucher les voitures à moteur thermique, les friandises qui favoriseraient l'obésité, les enseignes de fast-food, mais aussi les comparateurs de prix pour les billets d'avion, les campagnes promotionnelles lancées par les offices du tourisme de pays ou de régions qui ne sont accessibles qu'en avion, y compris les dom-toms.
Donc la Martinique, la Guadeloupe, est-ce qu'on a une idée de ce que ça pourrait coûter aux chaînes de télé ?
Alors, selon le syndicat national de la publicité télévisée, interdire à ces annonceurs d'investir dans des campagnes une télé pourrait coûter à la filière 1 milliard d'euros par an. Ça serait un vrai coup dur pour un secteur qui a énormément souffert de la pandémie. Les pertes liées au confinement s'élèveraient déjà à 500 millions d'euros cette année, malgré l'arrivée de nouveaux annonceurs qui ont profité de la crise pour investir en télévision, grâce notamment aux rabais offerts par les régies publicitaires. Et évidemment, du côté des annonceurs, on s'inquiète aussi. Ça concerne les marques, bien sûr, mais aussi les régions les plus dépendantes du tourisme, qui seraient doublement touchées. Plus de pub pour elles, ni de pub pour les comparateurs ou compagnies aériennes. Tous comptent bien défendre leur point de vue d'ici à la présentation du texte à l'Assemblée qui est attendue à l'automne.
La suite d'un de nos feuilletons de la rentrée, TikTok a eu chaud.
Oui, la semaine dernière, les employés américains de TikTok ont sans doute compté les heures. Sans accord de la Maison-Blanche sur le rachat de l'application, TikTok allait être retiré dimanche de toutes les plateformes de téléchargement des États-Unis. Un vrai coup dur pour l'appli la plus téléchargée de l'année dans le monde et qui compte 100 millions d'utilisateurs outre-Atlantique. Mais ce week-end, Donald Trump, je vous rappelle qu'il accuse TikTok de transférer à la Chine les données de ses utilisateurs américains, Donald Trump a finalement validé in extremis une solution. Le géant du logiciel Oracle et le géant de la distribution Walmart vont tous les deux entrer au sein du capital d'une nouvelle filiale américaine de la société ByteDance qui est le propriétaire de TikTok.
Et vous nous l'aviez dit la semaine dernière, c'est pas exactement ce que réclamait le président américain.
Non, il voulait qu'une entreprise américaine rachète purement et simplement les opérations américaines de TikTok. Au final, il se console de deux façons. C'est Oracle, société américaine qui va gérer les données collectées par TikTok Et en entrant au capital de la filiale, Oracle pourra également inspecter le code de TikTok. Je rappelle au passage qu'Oracle est l'une des entreprises qui a le plus soutenu Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir, ce qui n'est sans doute pas pour rien dans la décision du président de valider cet accord. Il reste une dernière incertitude, la Chine va-t-elle à son tour donner son accord ou refuser la transaction au risque de voir TikTok fermé aux États-Unis.
Et on se lance maintenant dans notre autre feuilleton, celui du Covid-19.
Oui, on adore les feuilletons, on en a de plus en plus. Donc le Covid-19, La Quotidienne, le meilleur pâtissier, incroyable talent, est désormais Laurence Ferrari. La pandémie continue de bousculer le PAF. Jeudi, Laurence Ferrari recevait Bruno Le Maire dans son interview matinale sur CNews. L'entretien a duré 20 minutes, sans masque bien sûr, et on a appris le lendemain que le ministre de l'économie avait été testé positif au coronavirus. Dans un premier temps, CNews a assuré qu'il n'y avait pas de raison que Laurence Ferrari soit contrainte à l'isolement, vu les mesures sanitaires prises sur le plateau. Mais la chaîne Info a finalement fait marche arrière, comme elle l'a révélé ce week-end aux Parisiens.
Et donc, Laurence Ferrari part en vacances forcées.
Alors, pour l'instant, elle est juste arrêtée ce lundi et a priori demain, où elle va faire un nouveau test. Demain, ce sera 5 jours après son interview de Bruno Le Maire. Et ce matin, c'est Gérard Leclerc qui a assuré l'interview de la matinale de CNews.
Et puis, en parlant de CNews, une star de la chaîne va y faire son retour le week-end prochain.
Oui, après quasiment un an d'absence pour raison de santé, Jean-Pierre Elkabbach va retrouver les plateaux de la chaîne Info ce dimanche. Le journaliste de 82 ans donne rendez-vous aux téléspectateurs à 19h pour une nouvelle émission hebdomadaire qui s'appelle Repère. Ouh là là. Le concept est assez simple. Il s'agira d'un grand entretien avec un invité qui pourrait être un homme ou une femme politique, un historien ou une historienne, un philosophe ou une philosophe d'ailleurs, des artistes, pour aider à comprendre notre société. Dans Le Parisien, Jean-Pierre Elkabbach promet également chaque dimanche un intervenant différent, je cite, qu'on ne voit pas partout. Rendez-vous dimanche à 9h pour voir s'il a dit vrai.
Et puis on termine ce journal avec la 72e cérémonie des Emmy Awards qui se tenait cette nuit à Los Angeles.
Malgré la pandémie, Hollywood était bien décidé à récompenser le meilleur de la télévision. C'est Jimmy Kimmel qui était aux commandes de la soirée, durant laquelle la distanciation sociale était de mise. Pas de public dans la salle du Staples Center de Los Angeles et la plupart des stars étaient restées chez elles. Je vous l'avais dit la semaine dernière, La chaîne ABC avait envoyé pas moins de 140 caméras pour filmer les stars chez elles.
Mais ce qu'on veut savoir, c'est qui a gagné.
Ben oui.
Oui, parce que c'est bien beau d'avoir des caméras, mais si on n'a pas le résultat.
La soirée a été dominée par la comédie canadienne Schitt's Creek, qui a remporté pas moins de 6 trophées, dont l'Emmy Award de la comédie de l'année et 4 Emmy pour ses 4 stars. Meilleur acteur et meilleure actrice dans une comédie pour Eugene Levy et Catherine O'Hara. Et meilleur second rôle masculin et féminin dans une comédie pour Dan Levy et Annie Murphy. C'est la première fois de l'histoire qu'une série remporte les 4 trophées des acteurs le même soir. Donc si vous n'avez jamais entendu parler de Schitt's Creek,
jamais.
C'est normal. Ouais. Aucune chaîne ou service de streaming français ne propose la série. Il faut se diriger vers YouTube ou iTunes qui la propose en VOD.
Et alors dis donc, ça parle de quoi? On a trop envie de savoir maintenant.
je sens vraiment votre impatience.
Ouais.
C'est l'histoire, c'est assez drôle. Honnêtement, chez Scrick, c'est pas mal. C'est l'histoire d'une famille richissime qui se retrouve du jour au lendemain sans le sou. Et alors, la seule chose qui leur reste, on ne sait pas trop pourquoi, c'est une petite ville perdue au milieu de nulle part qu'ils avaient achetée un jour pour rigoler. Ils sont donc contraints de s'y installer. Et autant vous dire que, évidemment, ce nouvel environnement va les dépayser. Parmi les autres grands gagnants de la soirée, Watchmen a été sacrée mini-série de l'année, a remporté au total 11 récompenses, y compris celle de la meilleure actrice dans une mini-série pour Regina King. Watchmen est visible sur OCS, tout comme le troisième grand gagnant de la soirée, Succession, sacrée meilleure série dramatique et qui a empoché au total 4 récompenses.
Et pour finir, Charles, d'autres victoires marquantes?
Il y a celle de Zendaya, qui est devenue la plus jeune de l'histoire à être sacrée meilleure actrice dans une série dramatique pour son rôle dans Euphoria, également visible sur OCS en France. Décidément, c'est presque une page de pub. Julia Garner, elle a remporté son deuxième Emmy Award consécutif dans la catégorie meilleur second rôle féminin dans une série dramatique pour son rôle dans Ozark, visible en France sur Netflix.
Merci beaucoup Charles Decan, à demain pour un nouveau journal.